Les farayeurs, ils sont principalement des immigrés maghrébins. Les coffreurs sont principalement des immigrés portugais. Et puis, au niveau des manœuvres, des immigrés ouest-africains, sénégalais, maliens, éventuellement caribéens. Mais...
Donc là où c'est le plus difficile, hein, où de l'échelle, évidemment, c'est
le ferraillage et les manœuvres, même si le ferraillage est un métier un petit peu plus qualifié, un peu plus valorisé, mais très peu au niveau du salaire, on dépasse pas de pas beaucoup le SMIC, sont des métiers donc effectivement les plus durs et puis les moins valorisés, et donc sont les deux métiers où on retrouve un certain nombre de sans-papiers. Et vous commencez à trouver des gens qui sont nés en France, blancs avec des prénoms français, au niveau éventuellement de chef de chantier, mais généralement de conducteur de travaux, donc de cadres assez importants, ingénieurs, que vous ne voyez que de temps en temps sur le chantier avec une petite chemise bien propre.
Bonjour Xavier Pessoudia.
Bonjour.
Alors c'est bien, c'est intéressant de nous faire un état des lieux, des tâches, des activités des travailleurs clandestins, parce que d'habitude, ils sont tellement pris dans la masse des anonymes. Voilà précisément le problème. Cette idée vous est venue, j'imagine, bien avant tous les malheurs qu'on constate, des sans-papiers qui se jettent par la fenêtre. Et puis hier, la grosse manifestation en faveur de la légalisation des sans-papiers.
En effet, vous savez que c'est un sujet qui me trotte dans la tête depuis un certain nombre d'années, mais c'est vrai que c'est un sujet qui est assez difficile à appréhender. Et Nicolas Jounin, qu'on vient d'entendre, qui est sociologue, vient de publier aux éditions de La Découverte une étude très intéressante intitulée « Chantier interdit au public ». Et il explore dans cet essai un univers très opaque, le secteur du bâtiment. Et c'est dans ce secteur que l'on trouve le plus de sans-papiers. Et depuis quelque temps, le travail clandestin est un sujet donc qui fut longtemps un tabou et un secret de polichinelle au sein des entreprises concernées, est très médiatisé. D'abord parce qu'on a vu des sans-papiers manifester publiquement. On se souvient de la grève de certains d'entre eux au restaurant de la Grande Armée en février dernier, du jamais vu en France. Ensuite parce que la police désormais traque directement ces travailleurs sans-papiers au cœur même des entreprises, ce qui fait réagir les patrons, lesquels voient disparaître une main d'œuvre peu coûteuse qu'ils ont du mal à recruter. Alors il faut préciser que les secteurs où l'on observe le plus de sans-papiers, ce sont, comme par hasard, dans des secteurs où la pénibilité est grande, dans le bâtiment, dans la restauration, dans le gardiennage, dans l'agriculture. Et comme il faut expulser le plus grand nombre de personnes sans-papiers par an, bien sûr, la police maintenant vient directement les chercher dans ces entreprises. Avant-hier, un jeune malien de 29 ans, Baba Traoré, est mort après s'être jeté dans la Marne pour échapper à un contrôle. Alors ce débat actuel a au moins un mérite, briser la grande hypocrisie qui règne depuis tant d'années dans notre pays. Personne n'ignore que les travailleurs sans papier concourent à la bonne marche de notre économie, les politiques, les chefs d'entreprise, les syndicats, qui sont restés très silencieux depuis un certain nombre d'années, ils commencent à se réveiller, le savent pertinemment. Personne n'ignore aussi que la plupart des sans-papiers payent des impôts, cotisent pour la sécurité sociale, mais n'ont aucun droit en retour. Des associations comme Droit Devant réclament la régularisation de tous ces travailleurs de l'ombre. Parmi les personnes que j'ai contactées pour réaliser ce reportage, j'ai rencontré un contrôleur du travail, Luc Béal Rinaldi, qui s'exprime au nom de la Fédération syndicale unitaire, et bien sûr, des sans-papiers qui réclament, eux, un peu de considération de notre part.
Je suis né au Congo-Kinshasa, l'ex-Zaïre.
Nantor, Kansas.
Je suis venu en France depuis pratiquement 4 ans. Pendant pratiquement 2 ans, j'ai galéré, j'ai souffert. Oui, c'était une souffrance totale, à la fois psychologique, parce que pratiquement j'avais perdu tous mes repères, physiques, financières. Il m'arrivait pendant des jours, des semaines, voire des mois, de me retrouver fauché, donc au plus haut point. Parce que je n'avais pas tout justement le droit de travailler.
Quand vous avez commencé votre premier travail, vous vous êtes adressé à une boîte d'intérim?
Non, c'était par un ami interposé. Donc c'est un ami qui m'a intéressé et qui m'a présenté à son employeur.
Est-ce qu'il vous a demandé vos papiers, justement, cet employeur?
Non, il savait déjà que j'étais sans papier, donc il m'a accepté dans l'État. J'étais obligé de prendre tout ce qui s'est présenté à moi. Donc j'ai été travailleur clandestin, comme on le dit, dans une boîte fantôme, en tant que cuisinier.
Pourquoi vous dites boîte fantôme, c'est-à-dire?
parce que en fait je ne connaissais pas le siège social de la société, ni même le patron. Et donc on était obligé de se pointer tout le matin. On préparait soit des sandwichs. On faisait aussi le ménage entre temps, donc on était polyvalent en fait.
On faisait à manger et le ménage.
Et le ménage, oui. Aussi bien dans le restaurant qu'en dehors. Je dois avouer que c'était assez pénible. On n'a pratiquement pas de droits. Donc l'employeur en profitait énormément. Si bien que sur les 1000 euros qu'on devait toucher de salaire, à la fin on s'est retrouvé seulement avec peut-être 750 ou 800. Il y avait toujours des explications du genre l'ordinateur s'est trompé dans le calcul et qu'on allait nous régulariser le mois d'après, ce qui n'était pas le cas. Donc à chaque fois, l'employeur en profitait pour nous soutirer de l'argent.
Ça se reconnaît, un travailleur sans papier.
Luc Béal Reynaldi, contrôleur du travail.
Un travailleur qui a des faux papiers, en général, il ne fait pas de bruit, il fait ce qu'on lui demande, il exécute les heures supplémentaires, il accepte éventuellement même qu'on ne lui paye pas ou qu'on lui paye de la main à la main. Les employeurs les plus malins, eux, ils ont déclaré leurs salariés. C'est-à-dire qu'ils ont des fiches de paye et donc ils ont l'apparence de la légalité. Maintenant, on sait très bien qu'ils peuvent faire pression sur leurs salariés à tout moment pour leur dire, écoute, si ça te convient pas, tu t'en vas, parce que de toute façon, c'est parti la main, tes papiers sont faux. Donc il y a une pression énorme.
Nicolas Jounin, vous êtes sociologue et vous avez enquêté dans le secteur du bâtiment, où il existe un grand nombre de travailleurs clandestins. Le bâtiment est d'ailleurs un secteur très opaque.
Ce monde est un petit peu opaque. Quand on interviewe les représentants de la profession, on est parfois confronté à une forme de langue de bois. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai été travailler sur des chantiers tenus par les grosses entreprises qu'on connaît, Bouygues, GPM, Vinci, Eiffage, dont le pavillon flotte en haut des grues, mais qui néanmoins n'emploie directement qu'une toute petite partie de la main-d'œuvre qu'elles utilisent, puisqu'elles recourent énormément à la sous-traitance et à l'intérim.
Qu'est-ce que vous avez constaté lorsque vous étiez au sein de ce chantier? Parce qu'on dit qu'il y a beaucoup d'immigrés, beaucoup de personnes d'origine étrangère.
Ce qui m'a frappé d'emblée, à la limite, pour être honnête, c'est surtout le fait qu'il était difficile de me faire embaucher parce que j'étais blanc et français, et que pour des postes de manœuvre, les commerciaux d'intérim, parce que les manœuvres sont quasiment tous intérimaires, préfèrent des immigrés ouest-africains parce qu'ils anticipent qu'ils iront davantage sur le chantier, qu'ils obéiront davantage aux ordres, qu'ils se rebifferont moins. Et s'ils peuvent anticiper ça, éventuellement dans un discours assez raciste sur la docilité de ceux qu'ils appellent parfois les mamadous ou les boubous, s'ils peuvent anticiper ça, c'est parce que ce sont des gens qui ont souvent des titres de séjour précaires, donc ça incite à une certaine docilité, voire ils sont sans papier, donc ça n'aide pas non plus. Je pense à un commercial d'intérim que j'ai interviewé, il disait entre le beauf et le boubou, pour ma neuf, c'est clair que je vais recruter le boubou parce que lui, il va se lever à 4h du matin, il ira à l'autre bout de la ville s'il faut pour aller sur le chantier. S'il est sans papier, sont aussi recherchés par certains secteurs très spécifiques comme le bâtiment, la restauration, l'hôtellerie. C'est aussi parce que leur situation d'avoir très peu de droits, d'avoir très peu d'opportunités professionnelles, etc., les oblige à accepter ces conditions.
Né au Mali.
Et ça fait longtemps que vous êtes en France?
Oui, ça fait 6 ans.
Et alors dites-moi, dans quelle activité vous travaillez?
Oui, j'ai travaillé dans plusieurs secteurs, notamment dans la fondation.
Oui, j'ai parcouru pratiquement tous les domaines. J'ai été agent de sécurité, donc vigile. J'ai été vendeur chez Carrefour. J'ai été intérimaire en tant que préparateur de commandes. On vit avec la peur, en fait. Non seulement dans le milieu professionnel, dans au travail, mais dans la vie de tous les jours. Même au boulot, on s'est dit, peut-être qu'il y aura du contrôle de l'URSSAF ou je sais pas quel autre organisme. Donc on vivait quotidiennement avec cette peur, cette inquiétude de la vie.
y a une parfaite hypocrisie de la part du gouvernement actuellement sur la question des travailleurs sans papier, parce qu'il y a des dizaines de milliers de travailleurs qui travaillent dans les entreprises tout en ayant des fiches de paie, dont l'économie française bénéficie, dont les employeurs ont besoin, et que le gouvernement, par une politique purement xénophobe, refuse de régulariser. Donc c'est une politique, si vous voulez, qui est complètement injuste, ce qui est en train de se faire. C'est-à-dire qu'on a des centaines de licenciements actuellement de travailleurs qui ont travaillé depuis des années dans des entreprises, qui sont licenciés à la suite d'un contrôle de police, par exemple, voire un contrôle d'inspection du travail, et qui sont licenciés pour faute grave, l'employeur indiquant qu'il découvre, bien entendu, qu'ils avaient des faux papiers, et le patron s'en tire, alors que on est dans une situation où il avait parfaitement connaissance de la situation de ses salariés sans papiers.
Joanne Le Goff, vous êtes patron d'une PME. Est-ce qu'on peut considérer qu'il y a de la part des patrons une grande hypocrisie ? Car beaucoup d'entre eux savent qu'ils embauchent des sans-papiers.
Je ne pense pas que l'hypocrisie soit là. Je pense réellement qu'il y avait des patrons qui ne savaient pas. Parce que il faut quand même un certain degré d'intimité avec un patron pour pouvoir lui dire « j'ai pas de papier ».
Bien sûr, ils le savent. Ils le savent complètement. Dans une agence où j'avais l'habitude de travailler, je repense à cet épisode où une commerciale d'intérim recevait un intérimaire en lui disant, en regardant ses papiers, en disant « Ah non, là, tes papiers, ils sont vraiment trop faux, ils sont rose fuchsia. » Donc, sous-entendu, revient avec des papiers plus propres.
Est-ce que vous n'avez pas le sentiment, au fond, qu'il y a une volonté de l'État de faire disparaître une certaine main-d'œuvre au profit d'une autre?
Effectivement, au regard des circulaires là sur les métiers en tension, ce qu'ils appellent les métiers en tension, on a l'impression que le gouvernement voudrait substituer la main-d'œuvre africaine, par exemple, dans les entreprises qui emploient actuellement les travailleurs africains sans papier, par des travailleurs venus d'Europe de l'Est.
Bon, plus présentable.
Plus présentable. Alors, c'est vrai que c'est un caractère parfaitement raciste. Il faut régulariser les travailleurs qui sont en France, qui travaillent depuis des années.
On a quand même le sentiment que vous en voulez beaucoup aux employeurs qui vous ont exploité.
Oui, tout à fait, parce que c'est une injustice qu'ils sont en train de commettre, parce que tous ces travailleurs clandestins sont en position de faiblesse.
On est obligé de travailler, pourtant on ne vole pas, on n'est pas des racailles, on n'est pas des bandits, on travaille comme tout le monde, on est sérieux. Mais avec tout ça, on n'arrive pas à trouver notre droit comme tout le monde. Franchement, dans ce côté-là, on souffre, mais il y a personne qui voit notre souffrance. On souffre. On demande une escorte.
Merci beaucoup, Xavier Pestoudja. C'est vraiment intéressant de voir comment, enfin, dans quelle branche, plus particulièrement, il travaille et dans quelles conditions. Moi, j'imaginais que c'était pas bien fameux, mais quand même.
Oui, c'est assez. C'est, puis en plus, c'est que c'est très très compliqué parce que maintenant, les employeurs donc sont obligés de déclarer chaque personne qu'ils embauchent à la préfecture. Donc ils ont la préfecture a 48 heures pour déclarer si cette personne est valable ou pas. Enfin, en tout cas, est-ce qu'elle a des papiers ou pas. Généralement, les préfectures mettent beaucoup plus de temps. Donc, si vous voulez, ça légitime tout un système et ça permet aussi pour les préfectures de constituer des fichiers.
Voilà. Alors, il y a quand même quelque chose de vraiment réconfortant et que je trouve formidable au niveau humain, c'est ces histoires qui se passent par exemple dans un petit village, les bouchers qui étaient sans papier et toute la ville, au moment de leur expulsion, s'est mobilisée pour les garder. Ce médecin africain qui s'était trompé, enfin qui était illégal de 4 jours sur son permis de séjour et qui faillit être expulsé, ben tout l'hôpital s'est mobilisé. Voilà, c'est le genre de conte de fées réaliste qu'on aime bien ici à Cosmopolitaine.
Alors, je vraiment pour compléter ce dossier, Nicolas Jounin, donc chantier interdit au public, c'est aux éditions de la Découverte. Dans Torkansas, un livre qui s'appelle Lettre à un ami au Congo, hein, qui relate son parcours de sans-papiers, c'est aux éditions L'Harmattan. L'association Droit Devant, bien sûr, dont le porte-parole est Jean-Claude Amara, c'est au 01 42 58 82 22. Et Joanne Le Goff, qu'on a entendu très très brièvement, qui est un patron d'une PME, vient de créer un groupe de patrons qui désire justement la régularisation des sans-papiers.
Et on trouvera les références sur notre site.
Bien entendu.
cosmopolitaine@radiofrance.com. Merci Xavier. À dans une quinzaine de jours.